chance, quand on a été obligé de reporter notre assemblée générale, et que finalement ça tombe très bien puisque nous fêtons l'évangélisateur de cette ville. Si on est réunis ici, c'est grâce à lui. C'est grâce à Saint-Denis. C'est très 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 important. Donc on a de la chance, et nous pouvons dire que Saint-Denis, je veux parler des différents Saint-Denis, qui est un homme du 3e siècle, pratiquait une liturgie qui était assez proche de celle que nous célébrons aujourd'hui. Puisque les liturgistes scientifiques ont établi que le plus ancien texte du rite des Gaules date du 2e siècle. C'est très, très ancien. Donc il est probable qu'il ait dit certaines formules que nous allons dire aujourd'hui. Alors, déjà, c'est compliqué, Saint-Denis, parce qu'il y a trois Saint-Denis. Donc, aujourd'hui, c'est un peu technique, excusez-moi. Mais la fin, c'est un tout petit peu spirituel quand même. Alors, le terme Denis, c'est un dieu grec païen, Dionysios, qui était très célèbre dans le monde grec païen, parce qu'il était le dieu de la connaissance et de l'ivresse. Et l'ivresse, c'est aussi une extase. Vous allez voir qu'il y a un rapport avec les Denis dont nous allons parler. Le premier, c'est Saint Denis d'Athènes, qui est le vrai Denis Aréopagite. C'est un membre du principal tribunal d'Athènes, qu'on appelle l'Aréopage. Moi, j'y suis allé, c'est sur une petite montagne à côté de l'Acropole, sur un gros rocher. Ils étaient carrément assis par terre sur une roc, et là, les sages de la ville, ils développaient des choses de la ville. C'était dédié au dieu Arès. C'est pour ça qu'on dit l'Aréopage. Et Denis d'Athènes était membre de l'Aréopage. C'est un personnage très important. Il était converti par saint Paul. Vous avez entendu ce discours magnifique de saint Paul. D'après Eusèbe de Césarée, qui est un historien d'un mi-4e siècle, il se rapporte lui-même à Denis de Corinthe, qui est un homme de la fin du 2e siècle. Excusez-moi, c'est un peu hystérique aujourd'hui. Denis l'Aréopagite serait devenu le premier évêque d'Athènes. Mais on ne sait rien de sa vie. On a juste la mention dans les actes que nous donne sa vie. On ne sait rien de sa vie. Mais la tradition dit que ce Denis l'Aréopagite serait devenu le premier évêque d'Athènes, ce qui n'a rien de tout. En Orient, le fête le 3 octobre. Il y a aussi un autre Denis, dit Aréopagite, qui est un écrivain ecclésiastique. On devrait plutôt l'appeler Saint-Denis le mystique. Alors je vous en dis deux mots, parce que son œuvre théologique est tellement importante que vous devez savoir qui il est. Il y a eu un grand problème au 5e, 6e siècle, une grande hérésie qui était l'hérésie monophysite. Alors, le concile de Chalcédoine en 451 résout le problème, on pourrait dire, dans un certain sens, puisqu'on dit une seule personne en deux natures. Les natures ne sont pas confondues, ne sont pas séparées, ne sont pas confondues. Bien. Mais après, le monophysisme a continué. Ça, c'était un monophysisme pur et dur de Tychès. Il disait que la nature divine absorbait la nature humaine. Bon, à ce moment-là, ça n'a plus aucun intérêt, évidemment. Tout ça est idiot, mais bon. Mais il y a eu une autre variété de monophysites qui, eux, ne disaient pas cela. C'est ceux qui se rattachaient à un homme important qu'on appelle Sévère d'Antioche. C'est le monophysisme historique, celui qui se perpétue jusqu'à nous. Et eux ne disaient pas que les deux natures avaient fusionné, mais ils ne reconnaissaient pas le concile de Chalcédoine. C'est ce qu'on appelle les pré-chalcédoniens. C'était en fait les non-chalcédoniens. Et il y a eu un colloque à l'instigation de l'empereur Justinien en 533. Justinien voulait absolument résoudre le problème pour des raisons de politique intérieure, mais aussi parce que sa femme était monophysite. Tout simplement pour ça. Et elle cachait des monophysites dans le palais impérial, ce qui est quand même terrible. Parce que c'est à cause de l'impératrice que toute la hiérarchie monophysite s'est reconstituée. C'est à cause d'elle. Quand elle cachait les monophysites dans son palais. Et il y a eu un colloque organisé par l'empereur Justinien en 533 entre des orthodoxes et des monophysites modérés. Alors, le colloque n'a rien donné, mais ils ont sorti un document, ils ont sorti des livres qu'on ne connaissait pas, c'était ce fameux Denis l'Aréopagite. Alors, dans l'Antiquité, vous savez, on n'avait pas l'imprimerie, on n'avait pas d'ordinateur, on écrivait sur parchemin. Parchemin tardivement, non, sur des papyrus. Et on faisait ça petit à petit, c'était des rouleaux, c'était pas très très pratique. Et on écrivait ses grands noms. Alors, en général, quand on n'était pas très connu, on prenait un grand nom. Donc, l'auteur qu'on ne connaît pas, il a mis Denis Larépagé. Ça passait mieux. Donc, on l'appelle Larépagé. C'est pour ça que les historiens disent le pseudo Denis Larépagé. Alors, les orthodoxes, au début, ont nié l'authenticité. Parce qu'aucun père de l'Église, avant le 16e siècle, n'avait cité Denis Larépagé. Mais, on s'est penché plus sur la question, notamment le géant de l'orthodoxie qui est Maxime le Confesseur, parce que c'est lui qui a mis, on pourrait dire, qui a mis le dernier point à l'orthodoxie, qui est au fond le père du concile de 680, du 6e concile de Cluny. Parce qu'il y a eu après le monophysisme, le monothélisme, une seule volonté, le monoénergisme. Vous voyez, tout ça, c'est des succès d'années du monophysisme. Et Maxime, lui, il a lu orthodoxement Denis Larépagé. On sait que dans un concile qui s'est tenu en 649 à Rome, au milieu du 7e siècle, plus personne n'a contesté l'orthodoxie des œuvres de Saint-Denis. Alors, ça c'est très important. L'œuvre elle-même, probablement du début du 6e siècle, l'auteur, on ne le connaît pas. Mais je vais parler après du contenu, pour que vous sachiez quand même que c'est orthodoxe. Puis un troisième Denis, alors, qui est chez nous, Denis de Paris. 3e siècle. Premier évêque de Paris. Alors, qui en parle? Grégoire de Tours. Mais Grégoire de Tours n'est pas n'importe qui, c'est un homme du 6e siècle. C'est le premier historien de la France et de l'Église de France. Et c'est lui qui rapporte ce qui est devenu une tradition, ou peut-être il rapporte une tradition qui existait de son temps, c'est que les papes de Rome ont envoyé 7 grands missionnaires qui auraient évangélisé la Gaule, dont Denis à Paris. Nous savons par Grégoire de Tours. Alors, Denis de Paris, qui est l'évangélisateur de la ville, il a été martyrisé, c'est pour ça qu'il y a Montmartre, il était enterré dans un vicus catuliacus, qui en fait s'appelait Cateuil, qui est devenu Saint-Denis. On est sûr que son tombeau était dans l'actuel Saint-Denis, probablement milieu du 3e siècle. Alors, on a un témoignage direct sur Saint-Denis, qui est un beau témoignage. C'est que Sainte Geneviève, qui est une sainte qui fait à peu près tout le 5e siècle, à peu près, dans le 5e siècle, elle a reproché au clergé parisien de négliger la tombe de Saint-Denis. Elle a contraint le clergé à construire une basilique, elle a fait des miracles, notamment pour trouver un four en chauffe. On a un témoignage qui est fort, et nous sommes allés, il y a en 2004, avec les fidèles de l'époque, pèlerinage là-bas, parce qu'on demandait à Sainte-Geneviève et à Saint-Denis de nous aider à trouver un lieu. On était chassés de l'intérieur du monde. Et nous avons vu, dans les sous-bassements de la basilique Saint-Denis, les substructures de l'église que Sainte-Geneviève avait fait construire. Et on a témoignage, on voit ce qu'elle a fait construire. Comment ?
Faudrait le refaire.
Ah oui, d'accord. Alors, bien. Alors, oui, j'aurais dû vous le dire, mais je peux quand même l'ajouter, c'est que le Saint-Denis Aréopagite, pseudo-Denis, c'est le père de la théologie qu'on appelle apophatique, c'est-à-dire le chemin de l'inconnaissance, de la non-connaissance. Alors, je vais vous en parler tout à l'heure, mais entre autres choses très importantes, il a écrit la théologie mystique, la hiérarchie céleste, la hiérarchie ecclésiastique et les noms divins. On en parlera tout à l'heure. Voilà pour les trois Saint-Denis. Une tradition tardive, elle est du 9e siècle. Bon, c'est tardif par rapport à l'Église antique. Ça vient de la grande et célèbre abbaye royale de Saint-Denis, au nord de Paris. A confondu les trois Denis. Et elle vient du fait qu'il y avait dans cette abbaye un manuscrit très célèbre, un manuscrit grec, qui contient toutes les œuvres de Saint-Denis. Et c'est de l'abbaye de Saint-Denis que la pensée de Saint-Denis s'est répandue en Gaule et dans tout l'Occident. L'abbaye d'Oise, elle a dit que c'était le même personnage. Vous voyez, donc on a confondu les trois Saint-Denis. Ce qui fait qu'on dit parfois Saint-Denis de Paris, parfois Saint-Denis l'Aréopagite. Bon. Lorsque les Belges restauraient le rite des Gaules dans le cadre de l'exorthodoxe, évidemment c'était d'abord le temporal, si vous voulez, puis après aussi les fêtes des grands saints. Pour ce qui est de Saint-Denis, donc on avait donné à Saint-Denis le nom de l'école de théologie qu'il a fondée, l'Institut Saint-Denis. À l'époque, il y avait que l'Institut Saint-Serge, où les cours n'étaient donnés que en langue russe. On a fondé l'Institut français qui était l'Institut Saint-Denis. Et quand il a restauré cette liturgie, c'est en 1957, il a pris la tradition telle qu'elle existait, il n'a pas changé. Mais il faut bien reconnaître que nous n'avons aucun élément historique pour les trois. Ni l'Athénien, c'est rien, ni notre Saint-Denis, nous, on ne sait rien, et encore moins Denis Pseudo-Rubrigide, puisqu'on ne sait même pas son nom, voyez, donc on ne sait rien. Donc il a gardé la tradition telle qu'elle. Vous avez vu dans l'hymne, on a confondu au moins les deux, on va dire, et il a utilisé les œuvres de Saint-Denis, dont on a lu un petit extrait tout à l'heure, pour la liturgie. Vous verrez tout spécialement l'immolation, le post-sanctus et la post-communion. Ce ne sont que des textes tirés de l'œuvre de Saint-Denis. Alors, on peut peut-être entrer maintenant un peu plus dans la théologie, dans la spiritualité. C'est vrai que ça nous pose question, ça arrive pour beaucoup d'autres saints, qu'au fond, l'histoire, ce qu'on peut en savoir, n'est pas tout à fait d'accord avec la tradition. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cela, parce que je suis un homme d'église, mais je suis historien aussi. Donc, évidemment, on se pose quand même des questions. Il ne faut pas prendre les choses comme ça, bêtement, on va dire. C'est les gens qui pensent que c'est le même. C'est un peu idiot. Même si ces trois personnages sont distincts, je pense, je trouve qu'il y a un lien entre eux en plus du nom. Bien sûr, les trois portent le nom de Denis. Mais il y a quand même un lien spirituel entre eux et cette tradition est intéressante. Alors, je vous donne deux exemples, mais il y en a d'autres. Saint Denis d'Athènes, son âme s'est enflammée à la suite du discours de Paul. Vous dites bien sûr, hein. Il passait pour un crétin par rapport aux autres, mais son âme s'est enflammée, il a dit, c'est ça. Saint-Denis de Paris, c'est le feu du martyr. Mais Christ lui a dit, il faut tenir jusqu'au bout, il faut que tu donnes ta vie, il l'a fait. Et Denis la Rubrigide, c'est le contemplateur du feu divin. Il dit, comment? Il dit, au fond, le seul but de la vie, c'est d'être déifié. Vous voyez, les trois sont unis par le feu. Le feu intérieur, le feu spirituel. Mais un autre aspect, je trouve assez intéressant, c'est qu'il me semble que ces trois Denis représentent trois composantes importantes de la prêtrise. Denis d'Athènes, l'écoute et la conversion, puis après il va prêcher. Denis de Paris, il y a la prédication, mais aussi l'offrande de soi-même. C'est le martyr. Prédication, martyr. Et Denis de Paris, c'est la théologie mystique. Si vous prenez ces trois éléments, ces trois aspects remarquables de la prêtrise, la pensée juste, la parole puissante et le don de soi-même. Oui, il y a un lien entre les trois. Je veux terminer sur la théologie proprement dite. Un mot sur la mission d'évangélisation. Saint-Denis de Paris, c'est au milieu du IIIe siècle. Il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui ont eu un évêque au IIIe siècle. On est très privilégiés. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Si vous prenez la place du christianisme antique, il y a très, très peu de petits points sur la carte du IIIe siècle. Et on a encore beaucoup de souvenirs antiques à Paris, la rue Saint-Jacques, qui était le cardo principal, l'axe nord-sud, l'île de la Cité, les soubassements du rempart romain, c'est dans la crypte, vous pouvez aller les visiter. La cathédrale Saint-Étienne n'existait pas, bien sûr, elle est tout à fait postérieure, mais c'était là qu'était le centre de la ville de Paris. Montmartre, on a trouvé une crypte très importante, dont on pense que c'est là qu'il a été supplicié. La basilique de Saint-Denis, construite par Saint-Geneviève, c'est au 5e siècle. Alors, il faut que nous pensions, que nous prenions conscience, quand on passe dans ces lieux, mais Saint-Denis n'est pas si là. Moi, j'ai travaillé en Sorbonne pendant 10 ans. Chaque fois que j'étais rue Saint-Jacques, je dis, Seigneur, je passe là où il est passé. C'est pas. Je dis, Geneviève est passé là, Denis est passé là. Ils étaient là, ils sont passés avant nous. Nous avons eu cet honneur. Il faut que nous nous en montrions dignes. Le christianisme n'est pas une abstraction philosophique. C'est pas on va vous exposer une théorie, il faut absolument y croire. Le christianisme est une personne, Jésus-Christ, et c'est des personnes. C'est pour ça que les saints sont importants. C'est des êtres vivants, c'est des personnes. C'est pas des abstractions. Ce qu'ils nous ont transmis, c'est le feu. L'Église a pu apparaître parce que beaucoup ont donné leur vie. Au IIIe siècle, on risquait sa vie Il allait de maison en maison, on célébrait dans les caves, dans les sous-sols. On risquait sa vie. C'est fort. C'est parce qu'il y a eu ces gens-là que l'Église existe. Nous sommes là. Je dis souvent que nous avons l'orthodoxie sous nos pieds à Paris. Oui, c'est vrai. Il y a eu Saint-Denis, Geneviève, Germain, d'autres. On a l'orthodoxie sous nos pieds. Et enfin, l'extase mystique, le chemin apophatique. Saint-Denis, l'Aréopagite, pseudo-Denis, 6e siècle, nous révèle le chemin apophatique. C'est le chemin d'inconnaissance, de non-connaissance. Il faut dire un mot de cela. Dieu se révèle à nous, c'est vrai. Il nous parle, la Bible, Christ nous parle. Mais Dieu demeure inconnaissable dans son essence, dans ce qui est le cœur de son être. Nature, nous ne connaissons de lui et nous ne le connaissons que dans ses énergies divines. Mais Dieu est aussi inconnaissable. Il est simultanément, il se fait connaître et il est inconnaissable. C'est une antinomie théologique. La théologie qu'on appelle cataphatique, donc qui se révèle, apophatique c'est ce qui est caché. Cataphatique, elle peut scruter, creuser les éléments de la révélation, la vie du Christ, l'enseignement du Christ, mais la limite, l'intelligence humaine. Je parlais il n'y a pas longtemps avec l'un d'entre vous, avec Claude Porta, et il me disait, explique-moi le chapitre 17 de Saint Jean, ce dernier discours du Seigneur. Mais je lui ai dit, Claude, c'est au-delà de l'intelligence humaine. On peut juste dire des petites touches, mais c'est au-dessus de nos forces. Oui, il y a une limite au chemin théologique de connaissance, théologie cataphatique. Pour aller au-delà, c'est là où Saint-Denis est très important, il faut entrer en soi-même et mourir à toute connaissance. Mourir à soi-même, mourir à son savoir, mourir à ses facultés intellectuelles. Il faut se remettre entièrement dans l'Esprit Saint. Et c'est lui, Dieu, qui nous initie à Dieu. C'est une expérience spirituelle. C'est mystique. C'est ça la mystique. C'est pas d'avoir eu des grandes révélations, machin et truc. Hein. La vie mystique, c'est faire l'expérience personnelle de Dieu. Par nature, cette expérience est personnelle. Elle n'est pas transmissible. Elle n'est pas révélable. Parce qu'on ne peut pas expliciter l'ineffable. Vous avez vu quand saint Paul, il dit qu'il a vu, il a été transporté jusqu'au 3e siècle. Il a été transfiguré, saint Paul. Vous avez vu, c'est pas, il ne peut pas le décrire. Il dit, j'ai vu ce que les yeux de l'homme n'ont pas vu. Il dit, je ne sais même pas si j'étais en moi, j'étais en dehors, je ne sais pas. Mais il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas nous transmettre quelque chose qui n'est pas transmissible. C'est ça le chemin apophatique. Alors, dans la terminologie dionysienne, vous verrez que ça s'entend dans la liturgie. On entend les mots de initiation, secret, etc., mystère. Mais ce n'est pas du tout dans le sens mondain. Il y a un ésotérisme du monde qui repose sur l'élitisme, qui était très prisé chez les païens, très prisé chez les sectes, dans les formations. Il y a les initiés, puis il y a le reste. C'est très très difficile d'être ici, on est toujours quelqu'un de très important. Mais l'ésotérisme chrétien n'est pas du tout cela. Vous entendez ce que dit le Christ? Tout ce que vous racontez dans les couloirs, à l'oreille, tout sera dit. Tout ce que vous avez dit sera révélé devant tout le monde. Intéressant par rapport à mon jugement. Donc c'est important de faire la confession avant de mourir. Tout sera révélé. Le christianisme n'est pas une religion de secret. Mais lorsqu'un homme a choisi de se mettre sur ce chemin de la déification, l'expérience qu'il fait avec Dieu, il ne peut pas la transmettre. C'est dans ce sens qu'il y a un ésotérisme chrétien, dont les Belges parlaient merveilleusement, mais il avait vu ça de ses propres yeux, donc il savait de quoi il parlait. Le but est bien sûr la déification. Saint-Denis a eu un rôle extraordinaire. Et son enseignement est au cœur de l'orthodoxie. Je résume. Toute véritable théologie est mystique. Toute véritable théologie est une expérience personnelle de Dieu. Sinon, la connaissance ne sert à rien. Vous pouvez lire des milliers de bouquins ou les écrire. C'est nul. Toute vraie théologie est mystique. Ce chemin est personnel. Mais c'est un chemin personnel que je dois accomplir dans l'Église. Je ne suis pas en dehors de l'Église, parce que l'Église me porte et l'Église aussi me vérifie. Car on peut se tromper dans ce chemin, c'est un chemin difficile. L'Église, elle est là aussi pour vérifier. On est aux antipodes de la conception rationaliste de la théologie qu'on trouve à partir du XIe siècle en Occident, la théologie scolastique, qui est purement rationnelle, qui veut tout expliquer. L'intelligence humaine doit tout comprendre. Non, ce n'est pas vrai. Mais l'homme doit aller à Dieu avec son être total. L'intelligence rationnelle est un élément important, mais n'est qu'un élément. Il y a aussi ce que nous appelons le cœur. C'est ce cœur qui peut entrer en communion avec Dieu, à qui soit la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. Amen.